Bonjour et bienvenue, merci d'être au rendez-vous du samedi du France Inter. Le grand face-à-face commence avec dans un instant le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat, on débat aujourd'hui la lutte des classes, pas celle qui se joue dans les manifestations contre la réforme des retraites. La lutte des classes au sens littéral, celle qui se passe dans les écoles, les collèges, les lycées. Comment réduire les inégalités scolaires? Comment mieux apprendre à lire? Comment remonter le niveau des élèves en maths? Comment motiver les enfants? Le constat est là, déclin des performances des élèves. Et si la solution venait de la science, notamment des neurosciences, la science au service de l'école, c'est la démarche mise en place par le ministre de l'Éducation nationale. Il y a un conseil scientifique qui a été mis en place avec à sa tête l'un de nos grands neuroscientifiques, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France. On dit de lui qu'il est l'éminence grise de Jean-Michel Blanquer. Un enfant est-il un super ordinateur qu'il faudrait apprendre à programmer? Comment éviter le divorce dont s'inquiètent certains entre la science et les humanités? On ouvrira le débat aujourd'hui avec Stanislas Dehaene dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Et on commence, comme chaque samedi, avec le duel. La directrice de Marianne Natacha Polony et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, sont en studio. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Beaucoup de sujets aujourd'hui au sommaire de votre duel. Et on va commencer avec ça.
Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me.
Tout le monde connaît les règles. Je n'aime pas ce que vous faites devant moi. Vous sortez, s'il vous plaît.
We know the rules. Nobody has to provoke. Nobody, ok?
Personne ne provoque personne. On se calme.
Le président de la République était en visite en Israël mercredi, avec cette altercation entre le chef de l'État et le service d'ordre israélien dans la vieille ville de Jérusalem. Vous vouliez revenir sur cette séquence qui en rappelle une autre, Gilles?
Oui, ce qui rappelle évidemment celle de Jacques Chirac il y a quelques années.
En 1996.
Revenir sur cette séquence et revenir sur le voyage avec deux impressions qui sont à la fois mélangées et contradictoires. Sévérité pour cet incident, parce que soit la visite est préparée, ça ne doit pas arriver, soit elle n'est pas préparée et ça ne doit pas arriver non plus. Donc sévérité contre les pouvoirs publics et d'une certaine manière sévérité aussi contre nous-mêmes et le temps que l'on a passé à décrypter l'accent, à décrypter qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui s'est passé après, les réactions en France, les réactions en Israël.
Il faut dire que c'est pas commun.
Parce que évidemment ce n'est pas commun, mais ça a occulté et c'est ça. Ma deuxième impression, mon deuxième sentiment, un sentiment de fierté pour ce qui était l'essentiel, normalement, ou ce qui aurait dû être l'essentiel, c'est-à-dire la commémoration du 75e anniversaire de la libération des camps, où pour le coup, quand on écoute les discours des uns et des autres, eh bien, il y avait une certaine fierté à être français ou à être allemand, c'est-à-dire que quand on écoute...
À être allemand,
quand on est allemand, le discours du président de la République fédérale d'Allemagne a été un très beau discours. Le président de la République française a été un excellent discours. Et au regard de ces discours-là, quand on écoute le président Poutine qui n'a parlé que de l'armée rouge, le vice-président Pence qui n'a parlé que de Dieu, Bibi Netanyahou qui n'a parlé pour l'essentiel que de l'Iran, eh bien, les présidents français et allemands se sont hissés à la hauteur de l'événement.
Natacha.
Oui, je rejoins Gilles là-dessus et je pense qu'en effet, on va éviter de perdre du temps à commenter un événement totalement anecdotique qui est cette sortie présidentielle.
Est-ce qu'il était si anecdotique, cet événement, considérant par exemple que ça a profité à Jacques Chirac en 1996 et ça l'a rendu très populaire dans le monde arabe, par exemple?
Bien entendu. Je n'ose croire qu'il viendrait à l'esprit d'Emmanuel Macron de tenter par un simple incident de ce genre d'effacer tout ce qui s'est passé justement depuis Jacques Chirac et de faire une sorte de popularité de cette façon. Je pense qu'il est trop intelligent pour ça, ou en tout cas je l'espère. Donc je pense que la question à se poser, c'est de savoir derrière cet incident, quelle est la place, notamment de la France, dans une problématique extrêmement complexe qui est celle aujourd'hui de l'évolution du conflit israélo-palestinien, la façon dont petit à petit la solution à deux États est rendue impossible. Est-ce que l'Europe est encore audible? La réponse, hélas, est dans la question, c'est non. Et je pense que, même si, en effet, je rejoins Gilles sur le fait que Les dirigeants européens sont pour l'instant les seuls, dans le cas d'une commémoration comme celle de la libération d'Auschwitz, à savoir se hisser au-dessus justement des intérêts particuliers, partisans, d'éviter l'instrumentalisation. Peut-être, hélas, est-ce le pendant de leur impuissance absolue quand il s'agit de peser sur la marche du monde. Et c'est cela qui m'inquiète. Je pense que on voit de plus en plus s'affirmer l'effacement de l'Europe, notamment dans la question du Proche-Orient, et en particulier quand il s'agit d'empêcher Trump d'inscrire cette espèce de nouvelle alliance avec Netanyahou et avec Ben Salman dans une forme de jusqu'au boutisme que je crois profondément dangereuse.
Gilles.
Oui, sur la commémoration de la libération des camps, ce ne sont pas tous les Européens qui se sont hissés à la hauteur de l'événement, c'est principalement les Français. Évidemment, non, il faut quand même souligner que les Polonais ont décliné l'invitation et ne sont pas venus. Alors on peut d'ailleurs aussi, je ne l'ai pas évoqué, regretter le fait que cette commémoration se soit passée à Jérusalem et pas à Auschwitz, comme si la libération des camps n'était l'affaire que des Juifs ou mieux encore des Israéliens et non pas de l'ensemble de l'humanité. Donc c'était principalement les Français et les Allemands, les présidents français et les présidents allemands qui, je crois, se sont hissés à la hauteur de l'événement. Pour le reste, sur, disons, la troisième dimension, celle du Moyen-Orient et de son introuvable paix, je partage ce que vient de dire Natacha, c'est-à-dire que ni la France ni l'Union européenne ne pèsent, ce qui n'est pas nouveau. Emmanuel Macron a eu au moins la lucidité de ne pas arriver avec un plan de paix dont il savait qu'il n'avait aucune chance d'être entendu ou écouté. Tout le monde attend maintenant le plan de paix promis depuis des mois et des mois et des mois des Américains, avec relativement peu d'espoir.
Mais on peut dire que Emmanuel Macron, depuis qu'il est président, a oscillé dans cette question justement des rapports de force. Il n'est certainement pas sur la ligne de Jacques Chirac, qui en effet avait ce qu'on appelle un tropisme arabe, qui en tout cas perpétuait cette volonté de la France de s'inscrire de façon gaullienne, j'allais dire, dans un juste équilibre. Il a par moments rejoint totalement ce qui est en train de former un camp, je dis ce tripartisme de Donald Trump, Ben Salman et Benjamin Netanyahou. Il s'est inscrit parfois à la remorque de la politique américaine tout en s'en détachant à d'autres moments, de telle sorte qu'on a du mal à voir exactement quelle est sa vision réelle de ces rapports de force.
Encore un mot, Gilles.
Juste une phrase, ce n'est pas faux. Il faut néanmoins souligner que Emmanuel Macron est allé au mur des lamentations, ce qui est un geste symbolique très fort vis-à-vis des Israéliens. C'est le premier président depuis Jacques Chirac à le faire, et que parmi tous les dirigeants qui étaient présents à Jérusalem, il est le seul à avoir vu Mahmoud Abbas, le président palestinien.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
La taxe nationale française sur le numérique, elle n'est ni suspendue ni retirée. C'est simplement le paiement des acomptes qui sont reportés du printemps à décembre 2020. Pourquoi ? Pour laisser le temps à la négociation de se faire dans de bonnes conditions, de manière sereine, comme le président de la République et le président Trump en sont convenus dimanche dernier.
C'était mercredi à Davos au Forum économique mondial et au micro de France Inter, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui promettait donc que la taxe sur les géants du numérique ne serait pas abandonnée. Malgré tout, vous avez le sentiment, Natacha, que la France a perdu un bras de fer contre les États-Unis ?
Alors, tout cela n'est que momentané. Il faut être très humble face à ça et regarder la suite. Simplement, on adorerait croire Bruno Le Maire. Il joue en quelque sorte sur les mots. Non, la taxe n'est pas suspendue, ce sont les paiements qui sont suspendus. Le constat est celui-ci. Cette taxe était une volonté de la France de peser, d'engager un bras de fer. Pourquoi ? Le constat, le multilatéralisme ne marchait pas sur cette question-là, et en particulier entre les pays européens. Donc la France a tenté une forme d'unilatéralisme qui devait sauver le multilatéralisme. C'est-à-dire, en gros, nous mettons en place cette taxe seule pour inciter nos alliés européens à nous suivre et les mettre devant le fait accompli. On voit que Emmanuel Macron, pour l'instant, a échoué à trouver des alliés dans ce combat. À ceci près que la Grande-Bretagne, elle, contrairement à la France aujourd'hui, a décidé de maintenir sa taxe. Ce qui prouve que dans ce rapport de force, il y en a qui vont un tout petit peu plus loin. Pourquoi la France se retrouve dans cette situation-là ? pourquoi n'a-t-elle pas permis d'entraîner les autres pays européens? Parce que l'essentiel, ce serait d'entraîner l'Allemagne. Or, l'Allemagne est pieds et poings liés, et ce n'est pas un hasard si deux jours avant la suspension et les paroles de Bruno Le Maire, eh bien, les États-Unis ont annoncé leur intention de taxer les berlines, de taxer donc les voitures allemandes. Et c'est ce genre de choses qui explique que nous n'arrivions pas à peser dans un enjeu qui est fondamental, c'est-à-dire que, in fine, les intérêts de l'industrie automobile allemande s'imposent au reste des pays européens qui, du coup, se retrouvent trop isolés et trop seuls pour entamer un véritable combat.
Gilles Finkelstein.
Oui, la situation de départ, c'est ça qu'on partage tous, c'est qu'il y a une situation qui est inacceptable avec des grandes entreprises du numérique qui, en France, mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE, échappent très largement à l'impôt. L'OCDE chiffre le manque à gagner pour les États entre 100 et 240 milliards de dollars par an. Donc ce sont des sommes absolument considérables qui viennent manquer aux États. Donc ça, il y a, je crois, un relatif consensus là-dessus. Après, le premier mouvement que l'on peut avoir, et je rejoins sur ce point Natacha Polony, alors on ne peut pas être surpris, parce que depuis déjà la fin de l'été, notamment avec le G7 à Biarritz, on a vu qu'il y avait un point de crispation et de fixation entre les autorités américaines et les autorités françaises, et l'entretien qui a eu lieu il y a quelques jours entre Donald Trump et Emmanuel Macron laissait présager ce recul. Après, on peut être malgré tout attristé de ce que la France donne l'impression, on verra si c'était le cas jusqu'au bout, mais de céder face aux menaces américaines et a fortiori de donner la victoire à Donald Trump en pleine
campagne. Mais il aurait fallu affronter ces menaces
de campagne.
Et prendre le risque, par exemple, que les vins français, que les sacs Vuitton fabriqués en France soient surtaxés par les États-Unis.
Alors, je ne sais pas, mais peut-être de manière paradoxale, peut-être que ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, ce qui s'est passé. Je m'explique. Je vais essayer d'être cohérent avec ce que je disais dans le même débat avec Natacha Polony au moment où cette taxe a été instaurée, donc il y a presque un an maintenant. Cette taxe n'était pas satisfaisante. Elle n'était pas satisfaisante parce que elle était très limitée. C'est quelques centaines de millions d'euros, ce n'est pas rien, mais très limité par rapport à ce que représentent les GAFA, y compris dans notre propre pays. Et elle était très imparfaite en ce qu'elle portait sur le, elle taxait le chiffre d'affaires et pas les bénéfices. Et donc, évidemment, c'est pas satisfaisant. Bon, et donc la question, c'est est-ce que ça permet non pas de trouver un consensus au niveau européen, mais de trouver un consensus au niveau international, puisque se déroule maintenant depuis des mois une négociation au sein de l'OCDE, et c'est là que devrait être trouvé un accord. C'est là que sur un certain nombre de sujets, contrairement à ce que l'on pense, notamment sur le secret bancaire, un accord a été trouvé. Alors on se prive d'un levier de négociation, de pression, en suspendant le paiement de cette taxe. Le risque, c'est qu'à la fin, il n'y ait ni taxe, ni accord, mais le pari vaut le coup d'être tenté.
Natacha Polony.
En effet, on est toujours sur des paris, je suis d'accord, à ceci près que cette taxe, en effet, avait le mérite de mettre en place un rapport de force en essayant de contourner un problème majeur qui est que le fonctionnement non seulement des entreprises du numérique, mais aussi de l'Union européenne, font que pourquoi il est si difficile de taxer des multinationales ? Parce qu'elles s'arrangent pour faire leurs bénéfices ailleurs que dans le pays où le produit est consommé. Donc toute la question est de savoir quels sont les outils pour obliger à ce que les impôts soient payés là où le produit est consommé. Il y a différents trucs et en effet la taxe sur le chiffre d'affaires permet de contourner ce maquillage fiscal qui est permis par quoi ? Qui est permis par le mauvais fonctionnement de l'Union européenne, par le dumping fiscal et la guerre que se livre entre les pays européens et qui permet donc de jouer sur les différences entre le Luxembourg, le Pays-Bas, etc. Donc ce n'est pas que le problème des multinationales, c'est aussi le fait que nous avons construit un système qui leur laisse libre jeu. Simplement, il y a un fort risque que la négociation à l'OCDE ne mette un temps infini à aboutir, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que quand Donald Trump a été élu, dans sa campagne, il y avait des attaques violentes contre les GAFAM. Pourquoi ? Parce que son but était, pour le bien du contribuable américain, de rapatrier tout l'argent que les GAFAM avaient mis dans des paradis fiscaux. Et donc, un des éléments de son programme, c'était de leur permettre, en leur accordant une part de remise sur ce qu'ils devaient, de leur permettre de rapatrier ces capitaux essentiels pour l'économie américaine. C'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump, dans ce jeu-là, considère que les multinationales sont dangereuses quand elles privent l'État américain d'une part de son argent, mais en revanche, quand ça s'applique aux autres pays du monde, là tout va bien. C'est le principe de America First, donc la négation du multilatéralisme. Comment pesons-nous face à cela ? Ça ne peut se marcher que si les États européens sont unis et ont la même vision, et c'est là où le bât blesse, sauf que ça nécessite véritablement, je le répète, que la France se trouve des alliés en Europe.
Mais encore un constat d'impuissance et de faiblesse que fait Natacha.
Alors là, juste une chose, là où c'est très grave, il ne faudrait pas croire que c'est juste anecdotique, que c'est juste une question de taxation. Gilles a eu raison de souligner les chiffres. C'est-à-dire que derrière ça, d'abord, il y a le fait que l'appauvrissement des États qui aboutit à la destruction des services publics, le fait qu'on n'a plus de quoi entretenir les infrastructures, c'est lié à tout cet argent qui ne rentre pas. Donc, les crises sociales que nous vivons sont aussi liées à ce système-là. Et derrière, c'est une question démocratique, c'est-à-dire la question de savoir si ce sont les élus représentant les citoyens qui sont maîtres et qui décident de ce qui s'impose sur un territoire donné. C'est donc une question absolument fondamentale.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
On a pu déjà, au bout de quelques semaines, s'apercevoir d'où provenait l'épidémie. On a pu identifier le virus. On va pouvoir, dès la semaine prochaine, avoir un test de diagnostic. Et donc tout ça, c'est extrêmement rassurant pour essayer de se protéger et de contenir la propagation de la maladie. On est préparé, on est formé. Et encore une fois, les mesures qui peuvent paraître insignifiantes de l'isolement et des mesures barrières, du lavage de mains, de se protéger quand on tousse, sont des mesures essentielles parce que ce sont grâce à ces petits moyens qu'on peut limiter la propagation de la maladie. Donc, on reste confiant avec l'habitude qu'on a de traiter en tant que médecin ce type de pathologie.
C'était le docteur Serge Smadja, secrétaire général d'SOS Médecins sur l'antenne de France Inter. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, confirmait hier un troisième cas de contamination en France. Et en Chine, on compte désormais 41 morts, plus de 1200 personnes contaminées et 56 millions d'habitants placés en quarantaine. Des rues désertes à Pékin, des sites touristiques fermés. Comment écouter cette parole-là, Gilles, celle de Serge Smadja ? Est-ce qu'il faut résister à la panique ou est-ce qu'il faut au contraire très sérieusement commencer à s'inquiéter ? On n'est pas médecin, mais en tout cas, quand on voit ces informations contradictoires, qu'en retenir ?
On n'est pas médecin, donc ça c'est évidemment une limite très importante. Le problème, c'est que les médecins eux-mêmes sont confiants, attentifs, mais doivent considérer cette menace au sérieux. En raison de ce que l'on sait, c'est-à-dire la gravité potentielle de cette infection pulmonaire, qui parfois est mortelle, en raison du fait qu'il n'y a pour l'instant ni traitement ni vaccin, mais aussi en raison de ce que l'on ne sait pas. On ne mesure pas encore exactement aujourd'hui ce qu'est le temps d'incubation. On ne sait pas exactement quel est le taux de transmission, et donc on est face au risque d'une menace de pandémie mondiale. Donc, c'est quelque chose de sérieux. On est frappé après de la radicalité de la réaction chinoise. Vous avez cité les chiffres.
Radicalité ou principe de précaution ?
Alors, radicalité. En tout cas, vous avez maintenant près de 60 millions de personnes qui sont en quarantaine. Ça ne veut pas seulement dire qu'ils ne peuvent pas quitter la ville dans laquelle ils sont, mais qu'ils sont invités à rester chez eux. On est un peu plus de 40 millions, pardon. C'est énorme. Et au-delà même des villes
56 millions aujourd'hui
qui sont confinées, au-delà même de ces villes-là, dans le reste de la Chine, c'est au moment même où se passent les célébrations du Nouvel An. Donc on n'est pas à n'importe quel moment de la vie chinoise. Vous l'avez dit, c'est la grande muraille qui est fermée, c'est
la cité interdite
aussi, etc. Donc, il y a tout ça, et ça pose, je crois, et je termine par là, des questions qui sont des questions vertigineuses, sur la décision publique. Comment fait-on pour prendre des décisions d'une telle ampleur quand il y a une telle incertitude ? quelle décision.
Et qu'on y va en démocratie, en tout cas,
ça simplifie énormément les choses.
Attendez, je vais unir en évaluant à la fois le coût humain, le coût financier, à quel moment, trop tôt, trop tard. Un certain nombre d'experts chinois disent que ces mesures sont arrivées trop tard. Et puis, question plus vertigineuse encore sur la démocratie, si cette mise en quarantaine est la bonne décision, ce qui est un débat, est-on capable de prendre une décision de telle nature dans une démocratie? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est le problème de la démocratie ou le problème des citoyens?
Natacha, avant de passer au débat.
Je rejoins à peu près ce point de vue-là, sachant que tout le monde regarde absolument fasciné pour l'instant la construction en l'espace de quelques jours d'un hôpital en Chine.
10 jours pour construire un hôpital de 25 000 mètres carrés.
Et on entend la petite musique de tous ceux qui sont là en train de dire « Vous voyez, c'est quand même plus efficace que chez nous », qui sont en général les mêmes qui trouvent que il faudrait un petit peu plus de dérégulation, un petit peu plus, ça irait tellement plus vite. De fait, là, en l'occurrence, on a un modèle qui n'est pas un modèle démocratique. Ça facilite les décisions, ça facilite les choses, ça les rend pas forcément plus efficaces. Parce qu'en effet, il semble que ça ait un tout petit peu traîné. Donc la question, c'est celle aussi, hélas, de notre capacité à penser la mondialisation. Puisque c'est à la fois un avantage, la Chine est développée, c'est sans doute pour ça qu'elle détecte beaucoup plus rapidement ce genre de virus. Et en même temps...
Et qu'ils ont l'expérience du SRAS en 2003.
Oui, mais pourquoi dans un pays comme celui-ci, on détecte immédiatement et on arrive à peu près à évaluer très très vite combien de malades sont touchés, etc. C'est parce que il y a un progrès de la Chine qui est absolument majeur.
Vive la mondialisation.
Alors, de ce point de vue-là, oui, sauf que c'est aussi la mondialisation qui fait se répandre totalement ce virus. Voilà, la mondialisation, c'est un fait. On n'a pas à être pour ou à être contre. On constate ce que ça donne. Et en l'occurrence, il y a quand même aussi quelques inconvénients, puisqu'on va nous expliquer que pour des questions économiques, on ne peut pas en effet mettre en quarantaine tout le monde de la façon dont la Chine le fait.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, Stanislas Dehaene.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
L'éducation en question dans le grand face-à-face de France Inter, classement après classement, le même constat, les performances scolaires des enfants français sont en déclin, baisse du niveau en maths, l'apprentissage de la lecture qui vacille, des inégalités scolaires toujours plus fortes et qui se répercutent sur les résultats en classe. Et si la solution venait notamment de la science au service de l'école, le Conseil scientifique de l'éducation nationale vient de remettre ses premiers travaux à sa tête, l'un de nos grands scientifiques, Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. On dit aussi de lui qu'il est l'éminence grise de Jean-Michel Blanquer. Mais un enfant est-il vraiment un super ordinateur qu'il faudrait apprendre à programmer? Comment éviter le divorce entre la science et les humanités? Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Et bienvenue, la science au service de l'école paraît chez Odile Jacob. Vous livrez les résultats de vos premiers travaux. C'est passionnant, ça pose beaucoup de questions sur la manière dont on peut améliorer l'apprentissage en classe dès le plus jeune âge, à la fois l'apprentissage de la lecture, la connaissance de la langue française, la meilleure maîtrise des mathématiques. On va en parler dans un instant. Un mot quand même pour vous demander votre sentiment devant ce geste de professeurs qui veulent manifester leur opposition au projet de réforme des retraites, qui s'inquiètent de la réforme du bac. À mercredi, on a vu une cinquantaine de profs de Périgueux qui ont jeté leur manuel scolaire devant l'inspection d'académie. Une action qui avait déjà été réalisée à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. Qu'est-ce que ça dit, cette scène-là, cette scène spectaculaire-là, qui se répète pour vous, Stanislas Dehaene?
Moi, je trouve ça épouvantable. J'aurais envie de traiter ça avec humour, parce que je trouve qu'il faut réagir avec humour. Et dans le livre « La science au service de l'école », on a tout un texte sur les manuels scolaires, et c'est vrai que certains sont achetés.
Oui. Mais
malheureusement, ils ont aussi jeté la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément scandaleux. Le livre est au cœur, évidemment, de la capacité de l'espèce humaine de s'être dressée au-dessus de ses fondements biologiques. C'est peut-être la grande révolution pour notre cerveau, apprendre à lire. Alors, jeter des livres, quand on est enseignant, il y a quelque chose de vraiment... Je crois que les enseignants ne se rendent plus compte du symbole qu'ils donnent aux enfants.
Pas tous, mais l'action de jeter justement ces manuels scolaires, ce sont des symboles de l'éducation. Ouais, c'est un symbole volontairement provocateur.
Moi, je m'inquiète sur l'effet de ce symbole sur les enfants, tout simplement. Je pense qu'il faut remettre les enfants au centre de l'école, sans idéologie, avec le regard le plus bienveillant possible, et celui aussi de l'objectivité que peut apporter la science. Et là, je pense qu'un enfant qui voit qu'on jette des manuels, qu'on jette des bouquins, ça ne peut être que vraiment une réaction très négative.
Natacha Polony.
Alors, vous venez de prononcer un terme assez intéressant, vous avez dit sans idéologie. Mmh. Et tout le problème, quand on débat de ces questions-là, c'est que l'idéologue, c'est toujours l'autre, c'est toujours celui qui est en face et qui n'est pas d'accord avec nous. Or, ce que je trouve intéressant dans votre livre, et je pense très sincèrement que tous les instituteurs devraient le lire, tous les professeurs des écoles, pour justement se forger leur propre idée, quitte à ne pas être d'accord, quitte à contester certains éléments. Mais il est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il rentre dans les détails des méthodes. C'est-à-dire que pour
alors
une
avant
fois...
d'entrer dans les méthodes, oui, oui, mais et dans le détail, Natacha, présentez le livre « La science au service de l'école » qui paraît donc chez Odile Jacob.
C'est un livre qui, en gros, est tourné autour de trois axes, puisqu'il y a trois textes fondamentaux. Le premier, donc, évoque les manuels scolaires, vous venez de le dire, et donc rentre dans le fond de la méthode, on va en parler. Le second est un plaidoyer pour les évaluations qui sont organisées au sein des classes de CP et de CE1 et qui
c'est surtout pour expliquer comment on les a organisées et pour quelles raisons.
Et qui là aussi rentre dans la technique, c'est-à-dire pour quelles raisons tel exercice est proposé aux élèves, qu'est-ce que cela mesure, etc. Et enfin, un texte sur la métacognition, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à un enfant de mieux apprendre, de par exemple de renforcer sa confiance en lui-même et donc de s'améliorer. Enfin là, je résume très
on pourra rentrer dans le détail, voilà. Hein, mais c'est ce que j'appelle l'engagement actif. L'enfant qui doit s'engager dans l'apprentissage, parce que apprendre, ça demande un effort considérable. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait ? Certains enfants sont découragés par l'organisation de l'école.
Alors justement, vous dites qu'ils sont découragés par l'organisation de l'école. La question, tout simplement, vous décrivez à sciences à l'appui, c'est-à-dire études neuroscientifiques à l'appui, les méthodes qui fonctionnent le mieux en matière d'apprentissage de la lecture, d'apprentissage des mathématiques. Or, il se trouve que ça confirme ce que certains professeurs totalement minoritaires expliquent depuis des années, à savoir que, par exemple, les méthodes progressives d'apprentissage de la lecture, les méthodes, on va dire, syllabiques ou en tout cas qui combinent phonique, les syllabes, phoniques, sont les plus efficaces, que la répétition est essentielle, que le fait de ne jamais proposer à l'enfant de lire des mots dont il n'a pas encore appris la combinaison des lettres ne fonctionne pas. Enfin bon, tout cela... c'est du bon sens dans la mesure où ça correspond à ce qui a été fait pendant, disons, à une progression.
Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur le bon sens, peut-être.
Parce que qu'il y a des guerres de la lecture,
oui,
comme vous l'écrivez dans le livre.
Il y a des bonnes raisons pour lesquelles il y a des guerres de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a effectivement d'autres idées sur la lecture qui sont aussi des idées généreuses. Il faut enseigner la compréhension. Généreuse. Ce qui compte avant tout, c'est de comprendre le texte. Peu importe, annoncer ne sert à rien, etc. Ce sont des idées qui pourraient être valides. Tout l'intérêt, je pense, de l'approche scientifique, c'est de regarder le plus objectivement possible. Alors, il y a peut-être encore le fardeau de certaines idéologies, je ne vais pas le nier, mais enfin, on fait des expériences, on essaye d'être le plus neutre possible. Par exemple, les gens qui évaluent les enfants ne sont pas les mêmes qui ont conçu les expériences. Et on voit, et dans le domaine de la lecture, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 25 ans, 30 ans. On voit partout dans le monde que c'est effectivement le fait d'enseigner de façon phonique, c'est-à-dire les correspondances entre les lettres et les sons, qui améliore de façon radicale l'enseignement, notamment lorsque c'est proposé en début de CP. Oui, c'est-à-dire que c'est
dès le plus jeune âge.
Quelque chose qu'il faut faire rapidement. En fait, il y a peut-être un point général sur l'espèce humaine, c'est l'apprentissage des symboles qui change profondément notre cerveau. C'est vrai aussi en mathématiques. C'est l'introduction des symboles des chiffres arabes qui soudain permet des choses que d'autres primates sont incapables de faire. Alors, on fait ça en début de CP. La recherche en France, y compris de Roland Gouagou, qui est toujours cité par beaucoup de syndicats, en fait, va dans le même sens. Elle montre qu'il faut concentrer l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes tôt, dans le premier trimestre. Il faut y aller sereinement, mais de façon concentrée. Donc, quand on a analysé les manuels, on a vu qu'il y avait beaucoup de manuels qui faisaient des tas d'autres choses, y compris des choses qui sont réfutées depuis des années et des années. J'ai été stupéfait de voir qu'il y a un grand manuel qui propose une énorme phrase à lire, une phrase d'ailleurs sans aucun intérêt aussi sur le plan de la compréhension, mais dès la première semaine, c'est « Il y a des garçons et des filles à l'école ». Alors, vous voyez, contenu zéro, mais aussi un enfant est incapable de lire. Un mot comme « garçon » viendra beaucoup plus tard, parce qu'il y a un CCDI, c'est difficile. « Fille », c'est pareil. Donc, des enseignants qui doivent comprendre un petit peu mieux la mécanique, quelque part, de la lecture.
Non, mais je termine juste ma question. Ces professeurs qui défendent exactement ce que vous venez de décrire, et qui étaient minoritaires pendant des années, qui se sont fait traiter de réactionnaires, qui se sont fait traiter d'absolument tout, se faisaient conspuer au nom de la science à l'époque. Alors, pas les neurosciences, mais les sciences de l'éducation. Donc, est-ce que finalement, vos neurosciences ne sont pas une façon de tout simplement mettre fin à cette querelle où une fausse science, appelée science de l'éducation, imposait une vision unique qui, aujourd'hui, vous commencez par les statistiques, a montré son caractère nocif. Je le pose de façon un peu brutale.
Oui,
mais...
je comprends. Et écoutez, moi, je pense qu'il y a plusieurs sciences qui sont en jeu. Ce n'est pas les neurosciences. C'est toujours un terme que j'ai récusé depuis le départ, d'ailleurs, du conseil scientifique.
Je sais bien.
Aller voir dans le cerveau ça. N'est pas le plus utile pour l'école et pour les enfants, bien que ce soit ce que je pratique, moi, au quotidien, à Neurospin. Non, le plus important, c'est toute une chaîne d'arguments qui vont depuis les neurosciences jusqu'à la psychologie cognitive, la sociologie, la mise en œuvre dans les classes, et c'est là que ce qu'on appelle les sciences de l'éducation peuvent contribuer. Et c'est pas parce qu'on a un résultat en laboratoire qu'il passe nécessairement facilement dans la classe.
Oui.
Donc je pense vraiment qu'on a besoin de toutes ces sciences, et elles sont toutes représentées dans notre conseil scientifique. Maintenant, est-ce qu'elles sont toutes de même valeur? Effectivement, on peut se demander s'il y a un certain nombre de résultats en sciences de l'éducation qui demandent à être réévalués. On a dans le conseil scientifique Esther Duflo, qui a reçu le prix Nobel d'économie, parce qu'elle a proposé une approche beaucoup plus rigoureuse sur le plan de l'expérimentation. Mais elle fait des expériences dans les classes avec des centaines, des milliers d'enfants, particulièrement en Inde. Et je pense que cette approche expérimentale, il faut absolument qu'on arrive à l'adopter dans les sciences de l'éducation française.
Gilles.
Oui, alors la science au service de l'école, je l'ai dit pour les lecteurs potentiels, ça ne se lit pas exactement comme un roman.
Presque,
pas exactement, pas totalement. Mais c'est un, je crois vraiment, un exercice démocratique et pédagogique qui est d'une grande utilité. Et sur un sujet qui est absolument majeur, parce que Ali Badou l'a évoqué tout à l'heure, dans un pays qui... plus que les autres, a la passion de l'égalité, pour reprendre la formule de Tocqueville, et dans laquelle nos problèmes d'inégalité sont moins des problèmes d'inégalité de revenus que des problèmes de mobilité sociale, et que la dernière enquête PISA l'a encore montré, les difficultés sur la mobilité sociale sont concentrées sur ceux dont les origines socio-économiques sont les plus difficiles. Le travail que vous faites est absolument, absolument déterminant.
Et donc, en fait, il fait débat malgré tout. On va en parler justement dans un instant.
Il fait évidemment débat. Il fait débat sur une question qui vient d'être évoquée sur le mode d'apprentissage de la lecture, mais y compris sur d'autres sujets auxquels vous accordez une grande importance. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les changements qui sont en œuvre pour appliquer ce que vous pensez. J'évoque deux choses. Dans l'école, vous dites il faut beaucoup plus de coopération. Il faut que l'erreur soit considérée comme quelque chose de positif. Il faut qu'il y ait moins de cours magistraux. Il faut qu'il y ait davantage de confiance qui soit donnée aux enfants. Comment on fait ça?
Et de collaboration entre les enfants.
Qu'est-ce que l'on change? Et deuxième chose, en dehors de l'école, très important aussi, vous dites, grande importance de l'attention, grande importance du sommeil. On sait que...
On va y venir, à ce qui se passe en dehors de l'école, mais ça fait beaucoup de questions, Gilles.
Oui, mais c'est des changements...
Mais il faut qu'on aille directement dans le débat.
Ça va au-delà du syllabique et du global.
Alors absolument. Alors sur la métacognition, puisque c'était votre première question...
c'est la métacognition.
Qu'est-ce que c'est? C'est l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est toutes ces... Dans nos circuits du cerveau, il y a un certain nombre de circuits qui nous représentent nous-mêmes, avec tous nos talents, nos défauts, et parfois un certain nombre d'erreurs. Donc, lorsque on nous demande d'apprendre quelque chose de nouveau, eh bien, notre cerveau va devoir prendre une décision. Est-ce que je m'engage dans cet apprentissage? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai de bonnes chances de réussir? Ou bien est-ce que je vais me décourager? Il y a donc tout un chapitre dans le livre sur la manière dont l'école peut modifier ses sentiments métacognitifs et des gestes pédagogiques qui doivent être adoptés par les enseignants pour ne pas, effectivement, enfoncer les enfants et créer des inégalités.
Des stratégies à privilégier, par exemple?
Des choses très très simples. Par exemple, le fait de faire lever le doigt à l'école pour demander à un enfant de répondre en classe entière. Alors, il y a des recherches là-dessus. J'étais surpris. Moi, j'ai appris des tas de choses depuis 2 ans. Mais donc, il y a des recherches qui montrent que les enfants qui sont déjà en haute classe en bénéficient, mais que les enfants qui sont en bas de classe, au contraire, se sentent enfoncés et vont stresser avant même, vont moins bien réviser la veille s'ils savent qu'ils vont être interrogés le lendemain. Donc ce sont des gestes très simples.
Demander aux élèves de lever le doigt ou
non,
au contraire...
Non, il faut plutôt intervenir un par un, à des moments particuliers, et avec bienveillance. Je pense que c'est toute cette notion de l'école bienveillante qui est absolument indispensable. Et en particulier, ça veut dire le traitement des enfants avec handicap. J'aimerais qu'on en parle parce que c'est un des sujets sur lesquels on n'a pas beaucoup progressé, je dis franchement. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels le conseil scientifique est très écouté, mais sur l'école inclusive, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. L'école inclusive, ça veut dire que il faut donner l'équité. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont en difficulté, il faut arriver à leur donner plus que les autres. Et lorsqu'un enfant a un handicap, ça peut être aussi simple qu'un handicap visuel ou auditif, il faut absolument que l'école l'aide à surmonter son handicap, parce qu'on sait que, par ailleurs, il peut être un excellent mathématicien, par exemple. Voilà. Alors en ce moment, il y a malheureusement des enfants à qui on nie, au moment des examens, d'avoir accès à un logiciel qu'ils ont eu pendant toute leur scolarité, y compris peut-être au diplôme national de brevet, moment du bac, on leur retire. Et ça, c'est pas seulement mauvais pour l'enfant lui-même, c'est mauvais pour l'ensemble de l'école, parce que je pense que ça donne un symbole de la difficulté que l'école française a avec la bienveillance, tout simplement.
La bienveillance, mais le professionnalisme aussi des enseignants que vous mettez en question, ceux qui ne suivent pas vos méthodes, pour le coup, et qui le prennent mal, ceux qui bricolent ou improvisent, pour reprendre vos mots, puisque vous menez la bataille aussi sur les réseaux sociaux, pas simplement à travers les préconisations ou les travaux de ce conseil scientifique de l'éducation nationale. Vous aimeriez que tous les profs rentrent dans la ligne que vous avez imaginée ?
Non, d'ailleurs vous avez utilisé au départ le terme de ça. Programmer les enfants, j'aime pas du tout ce terme, ni programmer les enseignants, ni programmer les enfants. Par contre, avoir un bagage
puisque
de connaissances...
Puisque vous les comparez à des super ordinateurs.
Oui, mais non, mais c'est
et un du coup, super ordinateur
qui est autonome.
Ça se programme,
non,
ça dit Stas de Haan.
Bah, la métaphore est fausse à ce moment-là.
C'est ça,
parce que le cerveau de l'enfant est un cerveau autonome et le cerveau de l'enseignant aussi, bien entendu. Simplement, il faut fournir aux deux un environnement qui enrichisse leurs connaissances. Et dans le cas des enseignants, je pense qu'on a beaucoup négligé la formation des enseignants. Il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. C'est l'objet de ce livre principalement. Hein. Donc, c'est vrai que c'est très difficile d'être enseignant. Il faut avoir, je pense, un modèle mental de l'esprit de l'enfant,
enfin,
et s'y adapter.
Stas de Haan, pardon, de mettre un petit peu les pieds dans le plat, parce que votre discours est extrêmement poli et bien élevé. On va le dire avec mes mots, la formation des enseignants, c'est pas qu'elle a été négligée, c'est que depuis la création des instituts universitaires de formation des maîtres en 1989, il y a eu un choix qui sont devenus ensuite qui ont été supprimés stupidement par Nicolas Sarkozy, puis qui ont été réinventés sous la forme des ESPE. Ces instituts sont devenus un lieu de reproduction de certaines méthodes dont votre livre montre et tous vos travaux montrent à quel point ces méthodes ne marchent pas et dont on voit quand on étudie les statistiques de réussite des élèves français à quel point elles donnent des résultats catastrophiques. Tout le débat est donc de savoir comment on fait pour former correctement les professeurs, avec des méthodes qui fonctionnent, tout en préservant la liberté pédagogique des professeurs, c'est-à-dire leur capacité à évaluer par eux-mêmes ce qui est bon pour leurs élèves et la façon dont ils vont organiser les savoirs. Vous êtes face à ça. Donc le problème, c'est à un moment donné de nommer ce qui a été des erreurs et de dire que la liberté des professeurs est absolument fondamentale, mais que pour autant, cette liberté, quand elle consiste à appliquer des méthodes qui ne marchent pas, est sans doute à revoir.
Je
en tout cas, la liberté,
vous,
ça nécessite de connaître les bonnes méthodes.
Oui. On ne peut exercer sa liberté convenablement que si on a conscience des conséquences de ses choix. Sinon, c'est pas de la liberté, c'est un choix au hasard. Et de fait, dans les manuels scolaires, il y a énormément de choix au feeling, je dirais.
Donc, laisser les enseignants choisir leur méthode, choisir leur manuel.
Moi, je suis bien entendu favorable à ce qu'ils choisissent.
De non-assistance à personne en danger, avait dit Jean-Michel Blanquer au cours d'une conférence de presse.
Je pense qu'il y a une liberté de l'enseignant qui doit absolument être respecté, parce que c'est lui, in fine, qui est devant la classe tous les jours et qui doit créer des matériaux. Mais cette liberté, il faut l'épauler. Et tout notre travail, ça consiste à épauler les enseignants, notamment dans le choix des manuels. Une fois qu'on a lu, je pense, attentivement les résultats de la recherche scientifique, on ne peut plus faire les mêmes choix qu'auparavant. Et alors, effectivement, ça demande quand même un changement profond des idées. Là, vous avez tout à fait raison. Hein. Il y a une certaine, un caractère statique, je dirais, des idées dans la formation des enseignants en France, entre les IUFM, les ESPE et les INSPE. C'est long à changer. Mais en fournissant des textes extrêmement clairs, je pense qu'on va fournir très prochainement aussi un MOOC, un cours massif en ligne que les enseignants pourront suivre sur le bagage minimum de sciences cognitives qu'il faut connaître. Je pense que progressivement, on peut changer ces idées. Et alors, vous avez dit quelque chose de très important aussi, il faut donner aux enseignants des outils pour évaluer ce qu'ils font. Ça a été l'objectif numéro un d'un des groupes de travail, de fournir en CP et en CE1 des outils pour que les enseignants enseignants voient les progrès de leurs élèves, voient où ils en sont dès le départ. Donc on peut dire dès l'entrée en CP quels enfants risquent d'avoir des difficultés en lecture, en maths, parce qu'on a de bons tests cognitifs là-dessus, et tous les enfants les passent maintenant. Et puis ensuite, en mi-CP, en début de CE1, est-ce que les enfants ont bien progressé? Est-ce qu'ils ont rattrapé leurs éventuelles difficultés? Ça, tous les enseignants peuvent le voir, c'est pas des choses compliquées du tout, donc ils peuvent même le reproduire dans leur classe. Par exemple, combien de mots vous arrivez à lire en une minute?
Oui.
Il y a des normes là-dessus, on sait quels devraient être les progrès, et les enseignants peuvent réaligner quelque part leurs attentes. Ce que j'aime bien aussi dans ce mécanisme, c'est qu'on a les mêmes attentes au niveau national, qu'on soit dans une zone d'éducation prioritaire ou pas. Alors qu'auparavant, je pense qu'on avait des attentes un petit peu moindres, et il n'y a pas de raison que ce soit comme ça.
Gilles Finkelstein.
Oui, on évoque le rôle des enseignants et la liberté pédagogique. Je voudrais parler des élèves. Je crois que ce qui est intéressant dans les travaux que vous présentez, c'est de montrer comment la compréhension du fonctionnement du cerveau permet d'adapter l'enseignement. Et on voit là où des expérimentations ont été faites que les résultats sont extrêmement positifs. La question, c'est comment, et vous dites aussi il faut qu'il y ait les mêmes attentes partout, comment fait-on pour adapter l'enseignement à l'environnement économique et social et culturel dans lequel il se déploie? Est-ce que il y a une contradiction ou pas dans les méthodes que vous évoquez?
Stanislas Zone.
Non, un des enseignements, je pense, des sciences cognitives, c'est que en première approximation, tous les êtres humains ont un cerveau comparable. C'est plutôt rassurant, mais ça va quand même contre une des idées fondamentales qu'on trouve chez beaucoup d'enseignants et beaucoup de parents, qui est que les êtres humains sont profondément différents, chaque enfant est différent, et on a besoin d'adapter profondément l'enseignement à chacun.
Ça, vous n'y croyez pas?
C'est une idée fausse, c'est connu comme ce qu'on appelle un neuromythe.
Un neuromythe.
L'idée qu'il y a des modalités, tel enfant est visuel, tel autre est auditif, tel autre est tactile, c'est faux. Et on bénéficie tous, par exemple, d'avoir l'information sous une forme multimodale. Donc, on apprend tous mieux lorsqu'on a l'information à la fois auditive et visuelle et pratique sur le plan matériel.
Mais pourtant, quand on regarde les gamins dans une classe, il y en a qui sont plus doués pour le dessin, d'autres meilleurs en maths.
Il y en a qui sont allés plus loin.
Ils ne sont pas justement de super calculateurs qui seraient possible de programmer pour qu'ils atteignent les mêmes objectifs et qu'ils parviennent aux mêmes performances, Stanislas Zone.
Je sais que c'est difficile à croire, mais si vous regardez par exemple l'algèbre qu'on enseigne aujourd'hui dans nos lycées, oui. C'était le pinacle des mathématiques des mathématiques arabes. Bon, aujourd'hui, c'est le fait de tout le monde. Ça veut dire que tous les cerveaux sont capables de l'apprendre. Alors effectivement, il y a des différences dans la vitesse d'apprentissage. Et puis il peut y avoir des handicaps qu'il ne faut pas nier. Donc on va pas tous à la même vitesse, mais on bénéficie tous des mêmes pédagogies qui sont supérieures à d'autres. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre.
Natacha.
Oui, à ceci près qu'il y a des inégalités qui se jouent extrêmement tôt et qui compliquent l'apprentissage. C'est-à-dire que quand un enfant arrive en classe, au début de la maternelle, ou quand il arrive même quelques temps après, mais c'est pour ça d'ailleurs que la maternelle obligatoire fait partie des idées pour améliorer les choses, mais il n'a pas entendu le même nombre de mots, il n'a pas le même type de vocabulaire.
Absolument.
Et donc il va falloir à un moment donné peut-être donner plus à ceux qui arrivent avec moins.
Vous
donc
avez
ça fait partie
raison.
Des méthodes absolument essentielles.
Il y a un mélange effectivement dans le cerveau d'inné et d'acquis, et l'acquis vient très tôt. Et l'environnement s'inscrit dans le cerveau extrêmement tôt, y compris d'ailleurs avant la naissance, avec la notion d'exposition à la langue, effectivement. Le bébé commence à apprendre la langue même in utero. Hein. Et puis évidemment l'exposition à toutes sortes de poisons.
L'apprentissage de la langue in utero.
Ah oui, absolument.
Vraiment.
Quand le bébé naît, il a déjà une préférence pour sa langue maternelle. Donc ça commence très tôt, et vous avez raison, les différences s'inscrivent très tôt. Donc on sait, d'un point de vue scientifique, qu'il faut intervenir le plus tôt possible. La maternelle est un lieu clé, notamment pour le langage. Mais on dit toujours, c'est l'école du langage, la maternelle, c'est très important, il faut enrichir le vocabulaire des enfants. C'est aussi l'école du jeu qui prépare aux mathématiques. Donc il faut qu'on ait ces deux jambes, langage et mathématiques.
Un mot, Natacha, et j'aimerais apporter un peu de dissensus dans cette conversation.
Quand on vous écoute, en fait, et quand on écoute la façon dont, par exemple, Ali formule ses questions, on sent bien qu'il y a une supposée opposition entre cette façon scientifique de prendre les choses liée à des observations, à un travail,
une expérimentation. Vous pouvez même utiliser le mot de scientisme, puisque c'est ce qu'on reproche notamment à Stanislas Dehaene, à ce conseil scientifique et à Jean-Michel Blanquer.
Alors,
dans son approche de la pédagogie.
J'y viens. Tout le problème est là.
Le scientisme.
l'école est là pour former, pour émanciper les individus par le savoir. C'est en tout cas tout l'idéal de l'école républicaine française. C'est-à-dire de faire en sorte que chaque enfant puisse potentiellement déployer toutes ses possibilités, toutes celles dont vous parlez, et en effet chaque enfant est doué des mêmes potentialités. Or, tout cela passe par une conception profondément humaniste de ce qu'est un être humain, de son rapport au savoir, et surtout une vision, j'allais dire, globale de ce qu'est un être humain. C'est-à-dire l'idée que le savoir ne se morcelle pas et que le rôle d'un professeur va être de comprendre comment cet enfant, dans sa totalité, évolue, construit sa vision du monde, arrive à maîtriser le monde autour de lui. Et le risque de votre travail, c'est de donner l'impression que vous êtes en train de morceler tout ça et d'appliquer des techniques mécanistes. Or, toute la question est de savoir comment on peut valider ce qui marche tout en préservant la vision humaniste de l'être humain.
Et ça, c'est un débat passionnant, Stanislas Dehaene.
La vision humaniste, elle est totalement partagée par tous les scientifiques du Conseil scientifique. Par contre, c'est un fait objectif que notre savoir est en partie morcelé. Vous pouvez être profondément dyslexique et être un excellent mathématicien et être très intelligent. Et il faut absolument qu'on comprenne ça. L'école.
Non, mais répondez au reproche qu'on vous fait, Stanislas Dehaene. Le reproche de scientisme, le reproche de négliger ce que disait Natacha, à savoir la part essentiel des humanités dans l'apprentissage, dans l'éducation nationale en
Mais
France.
Je pense que c'est vraiment, si vous regardez dans le livre, c'est totalement faux. Le chapitre sur la métacognition, par exemple, se penche sur des questions qui sont profondément de sciences humaines. D'ailleurs, il n'y a pas la moindre neuroscience là-dedans, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup dans le domaine de la métacognition. Mais il y a une réflexion très profonde sur ce que c'est qu'un être humain qui accepte de s'engager dans l'apprentissage. Et pourquoi on accepte de s'engager? Quelle image on a de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait pour, par exemple, éviter les biais sociaux qui font que beaucoup de jeunes filles disent « Ah ben, moi je serai jamais ingénieur, parce que les femmes ne sont pas ingénieures. » Vous savez, un des résultats assez remarquables qu'on a trouvé là dans les évaluations nationales, c'est que pour les tests en mathématiques, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles quand ils entrent en CP, en début de CP. Mmh. Et c'est ce qu'on a trouvé dans toutes les recherches, il n'y a pas de différence entre les bébés mâles et femelles, tout le monde a les mêmes capacités numériques, etc. Un an après, début de CE1, il y a de grosses différences.
C'est fascinant.
Et ça y est, les filles ont des moins bons résultats. C'est quand même, c'est quelque chose de phénoménal. Et ça, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des biais qu'on s'impose à nous-mêmes.
Gilles Finkelstein.
Vous venez d'évoquer pourquoi on s'engage dans l'apprentissage. On a évoqué il y a quelques instants quand on s'engage dans l'apprentissage avec, je crois, un élément très intéressant qui est que ce n'est pas seulement la question du dédoublement des salles de CP ou l'entrée en 3 ans maternelle, mais les travaux qui sont menés notamment par Adrien Taquet et Boris Cyrulnik sur les 1000 premiers jours, je trouve que c'est une bonne illustration de ça commence de plus en plus tôt. Et une troisième question que je voudrais évoquer, qui est comment on s'engage dans l'apprentissage et notamment la question des écrans. Parce que, c'est une question que se posent beaucoup de parents et à raison. Vous dites à la fois, ça peut être quelque chose de positif et notamment les tablettes, y compris accouplées à l'intelligence artificielle, peuvent être un accélérateur de compréhension, d'apprentissage de la lecture. Et d'un autre côté, quand on regarde ce que vous dites sur l'attention, sur le sommeil, on sait que sur les troubles de l'attention, les écrans peuvent jouer un rôle très important, et y compris sur le sommeil, sachant qu'on dort de moins en moins et que la réduction de la durée de sommeil s'est accélérée ces dernières années. Alors, que fait-on avec les écrans?
Justement, sur les écrans, je pense qu'il faut absolument avoir un discours mesuré qui ne s'arrête pas à cette étiquette idiote, les écrans, mais qui regarde précisément ce qui est fait. Il y a d'excellents logiciels pédagogiques, nous en avons au laboratoire pour la lecture, qui font leurs preuves expérimentales dans les conditions dont on a parlé auparavant. Mm-hmm. Le vrai danger des écrans, c'est quoi? C'est de détourner les interactions parents-enfants. Voilà. Et ce que la recherche semble montrer, c'est ça. C'est pas tellement l'effet spécifique de travailler, de jouer avec un écran, un téléphone. C'est le fait que pendant ce temps-là, les parents ne sont pas en train d'interagir avec leurs enfants.
Ils peuvent jouer avec leurs enfants à Fortnite, par exemple.
Alors s'ils le font, tout va bien et on peut enrichir son vocabulaire et puis on peut avoir une très bonne relation parent-enfant.
Bien
Mais
sûr.
Souvent, c'est pas ce qui se passe.
Il reste
le danger, c'est vraiment des heures de détournement de l'attention.
Avant de donner la parole à Natacha,
dans les deux sens,
d'un mot, Gilles.
Ce détournement de l'interaction parents-enfants, il peut être lié au fait que les enfants sont sur leurs écrans, il peut être lié aussi au fait que les parents sont sur les
leurs
et n'interagissent plus avec leurs enfants.
Le cerveau de l'enfant a absolument besoin d'interaction sociale. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est pour ça que l'ordinateur ne remplacera jamais un enseignant non plus. Ou alors ce sera un ordinateur qui ressemblera énormément à un être humain.
Et malgré tout, c'est ce qu'on vous reproche. J'y reviens à chaque fois, Stanislas Dehaene, mais on vous reproche par exemple de vouloir adapter des méthodes d'enseignement qui sont loin de la tradition française, des méthodes d'enseignement qui sont utilisées à Singapour par exemple, en Corée du Sud, pour l'apprentissage notamment des sciences, des mathématiques, qui sont extrêmement efficaces et qui font que les performances de ces élèves de ces pays-là sont bien supérieures à celles des enfants français en moyenne.
Oui, mais il faut revenir à l'enfant. Enfin, l'école est là pour les enfants. Est-ce que vous croyez que c'est agréable pour un enfant de venir en cours de mathématiques et de savoir qu'il va avoir 0, qu'il va avoir 5, qu'il va être le dernier de la classe? C'est épouvantable. Et vous avez une génération entière d'enfants.
Je le reconnais dans ce portrait-là.
Alors, à Singapour, vous avez des enfants qui viennent et qui savent qu'ils vont apprendre. Et moi, je pense que ça, c'est absolument essentiel, cette confiance qu'on a dans le fait que progressivement, avec un état d'esprit progressiste, tout le monde peut apprendre. Et les enfants le savent. Et l'ensemble de l'écosystème, les parents, les enseignants, les enfants savent que ça va fonctionner. Voilà.
Mais là aussi, c'est très bien d'aller chercher la méthode de Singapour qui, en effet, fonctionne. Mais ce qui est surtout frappant, c'est à quel point on a détruit 2 siècles de pédagogie sur l'apprentissage des mathématiques. Parce que les premiers travaux datent du tout début du 19e siècle. Et déjà, ceux-là mettent en avant la nécessité de la manipulation d'objets, de la mesure des quantités à travers l'usage de la balance, à travers l'usage des centimètres. Or, tout ça, à la fin des années 70, est abandonné, alors au moment où on fait les mathématiques modernes, et après, même si on n'enseigne plus...
Après, il y a le retour
plus...
de la main à la pâte,
Oui, c'est totalement annexe, parce que jamais on a retravaillé sur ces méthodes pédagogiques, et jamais on a remis en place ce qui avait été détruit avec les mathématiques modernes. Et donc, cette question de la manipulation du concret pour passer à l'abstrait, c'est d'autant plus important que les parents en général voient quand leur enfant ne sait pas lire, ils voient absolument pas quand leur enfant sait mal compter et n'est pas entré dans la pensée mathématique. Et ça, on en voit les conséquences aujourd'hui aussi.
Stanislas Dehaene.
Je pense que vous avez raison. Quand on demande à Singapour qu'est-ce que vous avez fait, ils disent on a été pioché dans des choses qui étaient faites dans le monde occidental. On a été cherché du côté de chez Montessori, on a été cherché à l'école traditionnelle en quelque sorte. Et effectivement, on voit aussi dans les statistiques, malheureusement, que les compétences de calcul de nos enfants ont vraiment chuté de façon très objectif, parce que c'est le même test qui a été passé par l'Institut de statistique, la DEP de l'éducation nationale, tous les 10 ans, et c'est un des graphes que j'ai mis dans le livre parce que je le trouve très frappant. Tous les 10 ans, on a perdu un demi-écart type de la population, ce qui fait qu'aujourd'hui, les scores des enfants d'aujourd'hui et ceux d'il y a 30 ans sont quand même très, très inférieurs. Donc il y a des choses qu'on savait faire et qu'on a perdu. C'est pour ça aussi que je m'oppose parfois au discours sur l'innovation permanente. On souhaiterait que l'école innove, mais souvent elle a juste à retrouver des choses qui étaient assez simples, qui étaient faites
le
très
bon
naturellement.
Sens dont je parlais en début des
par les enseignants,
Stanislas
et qui sont, mais qui sont aussi, le bon sens ne suffit pas, il faut le valider
par 2 siècles de recherche pédagogique,
absolument,
de travail.
Gilles Finkelstein,
ouais,
il reste 3 minutes.
Justement, parce qu'il reste 3 minutes, je voudrais revenir sur la question que Ali Badou a posée au tout début, sur celle du malaise des enseignants. Il l'a évoqué au travers de ce symbole des manuels. Il n'y a pas que les enseignants qui ont utilisé un symbole, je pense aux robes des avocats, aux blouses des infirmiers, etc. ces derniers temps. Mais je voudrais venir sur la question du fond et de savoir quel est le rôle du conseil scientifique dans cette question-là. Il y a, un consensus sur le point de savoir qu'il y a un lien entre la qualité, l'implication, les efforts des enseignants et les résultats, et qu'il y a un lien aussi entre leur salaire et ces résultats. Est-ce que cette question du salaire, qui a été réactivée par la réforme des retraites, mais qui était latente depuis un moment, est-ce que ça fait partie des sujets sur lesquels un conseil scientifique se penche? Puisqu'il n'y a pas des études sur ce sujet-là.
Il n'y a pas une science du salaire, mais il y a quand même des résultats statistiques de l'OCDE et puis des comparaisons internationales, tout simplement. Et c'est vrai que l'école française était assez bas dans cette échelle des salaires des enseignants par rapport à l'Allemagne, par exemple.
Et qu'il y a une crise de vocation réelle aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de candidats au CAPES ou à l'agrégation, par exemple.
C'est un des des chiffres qui m'a vraiment frappé. Deux fois moins de candidats au poste d'enseignant qu'il y a 10 ans. Ça, c'est vraiment, c'est terrible. Donc effectivement, on a du mal à recruter parce que le métier d'enseignant est très difficile et peut-être insuffisamment soutenu par l'ensemble de la hiérarchie. Donc oui, c'est un des sujets importants du conseil scientifique. On a écouté d'ailleurs le président de l'OCDE nous parler de ces sujets. Il considérait que c'était la clé absolue. Et je crois que c'est juste. C'est l'enseignant qui est en première ligne dans sa classe et il faut lui donner tous les moyens possibles de l'épauler. Voilà. C'est pour ça que je considère comme positif, par exemple, le livre orange qui a été proposé par la DGESCO, la direction de l'enseignement scolaire, qui aide les enseignants à choisir des activités pour la lecture. C'est pas parfait, ça peut évoluer, c'est un livre qui continue d'évoluer, mais il est utile. Il y a des guides pédagogiques. De manière générale, ça m'a frappé que l'éducation nationale, pendant des années, s'est penchée énormément sur les programmes et très peu sur les pédagogies. Il devrait y avoir un conseil pédagogique beaucoup plus important, je pense.
Et sur les résultats également, puisque vous citez aussi ce chiffre de 10 à 15% d'élèves qui sortent quasi illettrés du système scolaire, c'est ça qu'il faut réparer
avec des inégalités qui sont profondes parce que ces élèves-là viennent d'un milieu défavorisé dès le départ.
En tout cas, le débat est passionnant, c'est la fin de l'émission. Merci Stanislas Dehaene d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. La science au service de l'école, les premiers travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale est publié chez Odile Jacob. Natacha, Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Purari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Clément Berman. À suivre sur Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.